Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour cette première conférence de l'année 2024 que je vous souhaite excellente sur tous les plans. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de belles conférences auxquelles vous pourrez assister pendant cette année. En tout cas, nous nous y employons. Donc, les conférences à venir, d'abord, le 6 février, ce sera Vanessa Hill de l'Observatoire de la Côte d'Azur qui va nous parler des étoiles primitives, traces fossiles des origines de la Voie lactée. Ensuite, le 5 mars, Gérard Mourou, prix Nobel de physique, rien que ça. Nous aurons deux prix Nobel de physique cette année. Donc Gérard Mourou, le 5 mars, qui nous parlera de laser et de lumière un peu extrême. Je n'ai pas encore le titre exact de sa conférence, mais ce sera sûrement intéressant. Et enfin, je n'en annonce que trois. Le 3 avril, Florent Leclerc, de l'IAP, qui nous parlera de l'énergie noire et de l'intelligence artificielle. Enfin, énergie noire et intelligence artificielle. Il ne va pas tout dire sur l'intelligence artificielle, sinon il faudrait des mois. Voilà, et donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Amandine Lebrun, qui, contrairement aux étudiants français qui, en général, font leur thèse en France et leur post-doc à l'étranger, elle a fait le contraire. Donc, elle a fait sa thèse à Liverpool. Ensuite, elle a fait un post-doc au CEA, donc à Saclay. Et elle est maintenant chercheuse CNRS à l'Observatoire de Paris, enfin à Meudon, dans un laboratoire qui s'appelle le LUT, laboratoire de l'univers et de ses théories. Elle travaille sur les simulations numériques d'amas et de grandes structures de l'univers. Et donc ce soir, elle va nous parler des amas de galaxies qui sont chers à mon cœur puisque j'ai travaillé dessus pendant presque toute ma vie, enfin toute ma carrière disons, je n'ai pas commencé à 5 ans, les amas de galaxies comme sondes cosmologiques et laboratoires astrophysiques. Merci Amandine.
Merci beaucoup Florence. C'est un grand plaisir de venir vous parler ce soir. Alors j'espère que mon français va tenir tout. Ah oui, non, je sais. J'espère que mon français va tenir toute la longueur de la présentation, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de donner ce genre de présentation en français. Vous m'excuserez si par moment certains anglicismes m'échappent. Je vais d'abord vous expliquer un peu de cosmologie et de formation des structures de l'univers. Parce que les amas comme sondes cosmologiques, il faut déjà comprendre un peu de cosmologie. Puis, un amas de galaxies, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ce sont des sondes cosmologiques ? Pourquoi des laboratoires astrophysiques ? Et surtout, vous êtes dans un institut qui a une très lourde implication dans une nouvelle mission spatiale qui s'appelle Euclide, qui a été lancée au mois de juillet. Et le responsable scientifique est basé dans cet institut. Et parmi les premières images que vous avez peut-être pu voir au mois de novembre dans les actualités, dans la presse, il y avait un superbe amas de galaxies. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a prévu de faire avec les amas de galaxies dans Euclide, très brièvement. Donc l'univers... en résumé, on ne sait pas grand-chose. 95% du contenu de l'univers est soit de la matière sombre, soit de l'énergie sombre. Matière sombre pour 20%, énergie sombre pour 20%, 75%. Et ça, tout simplement, ça veut dire qu'on n'a absolument aucune idée de ce que sont ces deux composantes. La troisième composante, les 5% qui restent, c'est ce qu'on appelle la matière baryonique. Et ça, c'est... j'ai été trop vite. C'est énervant quand ça fait ça. Ah. Il tourne au dernier. Bon, on n'affichera pas la matière baryonique. Donc, c'est en fait la matière qu'on connaît, dont vous êtes fait, vous, moi, l'univers, les étoiles, tout ce qu'on voit dans l'univers, donc les étoiles, les galaxies, le gaz, tout ça, c'est ce qu'on appelle la matière baryonique. Et ça ne fait que 5% du contenu de l'univers. Alors, comment on sait ça ? Il se trouve que les relevés cosmologiques, ça ne date pas d'hier, ça a commencé dans les années 90, voire fin des années 80 pour certains. Et progressivement, on s'est rendu compte que l'univers obéissait, se formait selon une cosmologie standard. Donc, il y a un modèle qui contient de la matière noire, parce que, par exemple, les galaxies tournent trop vite par rapport à leur contenu lumineux, et de l'énergie noire. Ça date de la fin des années 90. C'était vraiment la grosse surprise qui a valu le prix Nobel à ses découvreurs il y a quelques années. C'est que l'univers, il augmente de... Il s'étend. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du Big Bang. Donc, il y a eu comme une explosion au début. Et puis, l'univers grossit de taille. Au fur et à mesure, il se refroidit. Les structures secondaires se forment. C'est ce qu'on va voir dans le petit film que je vais vous montrer après. Si on en croit la théorie de la gravité, comme la gravité attire, l'expansion, au lieu de s'accélérer, elle devrait être de plus en plus lente, voire même à un moment s'inverser et l'univers se recontracter. Et on s'est rendu compte qu'au lieu de la vitesse de cette expansion, au lieu de se ralentir, elle s'accélérait. Et ça, c'était vraiment la surprise totalement inattendue de la fin des années 90. Et donc maintenant, on a ce cadre qui est très bien établi, mais il reste quand même un énorme mystère. C'est qu'est-ce que c'est que ces 95% dont on n'a absolument aucune idée de ce que c'est. Et entre autres, c'est pour ça que Euclide a été, entre autres expériences, Euclide a été accepté par l'Agence spatiale européenne il y a déjà près de 20 ans. Donc le relevé commence dans les semaines qui viennent. Et donc, peut-être que dans 2 ans, je vous donnerai une présentation totalement différente où je vous dirai qu'on sait tout et qu'il n'y a plus de mystère, que l'énergie sombre, c'est ceci, la matière sombre, c'est cela. Ou pas, on verra bien. Et donc, je vais essayer de faire... Je vais vous montrer un film qui a été fait à partir, entre autres, alors je ne vais pas vous montrer la totalité, à partir de simulations que j'ai faites lors de mon premier postdoc et qui explique comment se forment les structures.
Notre Soleil fait partie des 200 à 300 milliards d'étoiles de la Voie lactée, une très belle galaxie spirale très aplatie, de 100 000 années-lumière de diamètre et de seulement quelques centaines d'années-lumière d'épaisseur. Grâce à la puissance de calcul des supercalculateurs actuels, nous pouvons maintenant simuler numériquement notre galaxie et retracer son histoire vieille de 13,2 milliards d'années, soit 600 millions d'années après le Big Bang. Dans ce film, nous allons montrer nos derniers résultats de simulation des structures de l'univers, à toutes les échelles, en commençant par la cosmologie, c'est-à-dire l'étude des plus grandes structures, les super-amas de galaxies. En 1992, le satellite Kobe avait établi une première carte des fluctuations du fond diffus cosmologique, 380 000 ans après le Big Bang, lorsque notre univers, opaque jusqu'alors, devient visible au moment où le rayonnement électromagnétique n'interagit plus avec la matière. D'importants progrès technologiques ont permis de fournir des résultats plus détaillés en 2003 grâce au satellite WMAP, puis en 2013 avec les observations du satellite Planck. Le fond diffus cosmologique présente d'infimes variations de température et d'intensité selon la direction, qui permettent d'obtenir quantité d'informations sur l'univers jeune et son contenu actuel. Nous utilisons cette nouvelle carte pour définir les conditions initiales à partir desquelles la simulation résout les équations de la gravitation et de l'hydrodynamique appliquées à la matière noire et à la matière visible. Cette première simulation représente l'évolution sur plus de 13 milliards d'années à partir de l'émission du fond diffus cosmologique d'une région de l'univers, un cube de 3 milliards d'années-lumière de côté. On voit ici l'évolution de la matière noire régie par les équations de la gravitation et qui représente 85% de la masse de l'univers. Dans un extrait du cube initial, on peut mieux voir la matière se concentrer en filaments de plus en plus denses. Dans ces filaments se forment des groupes de plusieurs galaxies, des amas de centaines de galaxies associés en superamas de plusieurs milliers. Ces simulations ont nécessité l'utilisation de plusieurs milliers de processeurs en parallèle pendant plusieurs semaines et ont généré quelques centaines de téraoctets de données. À la fin de la simulation, la distribution de la matière dans l'univers n'est pas uniforme. Des régions vides côtoient des régions denses et les galaxies se forment à partir des grumeaux de matière au sein de ces régions denses. Cette séquence nous montre la répartition des galaxies dans l'état actuel de notre univers. Plongeons-nous maintenant au cœur de la simulation, dans une région de 50 millions d'années-lumière de côté, resimulée à très haute résolution, et qui tient compte aussi de la matière visible. Seulement 15% de la masse des amas est constituée de matière baryonique, celle qui forme les étoiles, les planètes et nous-mêmes. On la trouve principalement sous forme de gaz, de l'hydrogène, que nous visualisons maintenant. À la différence de la matière noire, la matière baryonique est soumise, en plus de la gravitation, aux lois de l'hydrodynamique et de l'électromagnétisme. Nous voyons maintenant une autre simulation de la formation des amas dans l'univers. On représente ici le gaz dans le milieu interne.
Donc, on a vu comment ces objets qu'on appelle amas de galaxies se sont formés par accrétion de matière au cours du temps liée à la gravité. Et donc, quand on cherche sur le ciel un amas de galaxies, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, on veut ne voir que les galaxies, principalement. Donc, contiennent des centaines, milliers de galaxies qui sont liées ensemble par la gravité. Donc là, je vous ai mis une image en optique d'un amas. Alors, j'ai oublié lequel, je suis désolée, Florence. Je crois que c'est un des amas RXS, mais je ne suis pas complètement... Donc, on voit toutes les galaxies et... donc qui émettent, dont les étoiles émettent de la lumière qu'on peut détecter. Et donc, comme il était évoqué dans la vidéo, comme ces objets sont tellement massifs, ils contiennent un contenu en matière, donc on s'intéresse seulement aux 25% en total de matière, qui est représentatif de l'univers. Donc à peu près 80%, 85% de matière sombre, 12% de gaz chaud et 3% de galaxies. Donc, ce qui veut nous dire que la formation des étoiles n'est pas un processus très efficace dans l'univers, parce que la majorité de la matière entre guillemets, normale, se trouve sous forme de gaz chaud. Pourquoi ça nous intéresse? C'est entre autres parce que ce sont les seuls systèmes où on peut observer toutes les formes de la matière, y compris la matière sombre, par son effet gravitationnel. Donc elle va dévier la lumière. Vous voyez des déformations de certaines des galaxies, des arcs. Et ça, c'est un effet l'anti-âge fort. Et cette déviation de la lumière, c'est une des prédictions de la relativité générale d'Einstein. Donc toute masse va dévier la lumière qui s'en approche. Et donc, entre autres, avec des instruments comme ce qu'il y a à bord d'Euclide, on va être capable de mesurer ces déviations infimes de la forme des galaxies et avec ça, en déduire quelle est la quantité de matière totale qui se trouve dans l'univers et où elle se trouve, comment elle est répartie géométriquement, etc. Ici, c'est un exemple du fait qu'on peut tout voir. C'est une image d'un amas qui est très célèbre, qui s'appelle l'amas du boulet. Et en fait, ces deux amas qui sont entrés en collision, un est passé à travers de l'autre. En rouge, vous voyez le gaz chaud qui émet en rayons X. Les couleurs, c'est toujours de l'optique. Et en bleu, hein, c'est justement ce qu'on a mesuré avec l'effet de l'antilage gravitationnel. On se rend compte que la matière noire, en fait, comme elle est ce qu'on appelle acollisionnelle, donc c'est comme si elle se passait à travers en s'ignorant. Le gaz, lui, il va ressentir les effets des autres parties, des autres molécules de gaz, pas la matière noire. C'est comme deux étoiles qui se croiseraient, voilà. Et donc, du coup, la matière noire, elle est déjà complètement c'était un passage à travers, donc est déjà à nouveau à l'extérieur, alors que le gaz, il est au centre. Un autre intérêt de ces structures, c'est qu'elles sont les plus grandes à s'être formées par effondrement gravitationnel et fusion à l'époque actuelle. Et donc, elles se sont... L'énergie noire, elle domine dans la période relativement récente de l'histoire de l'univers. Donc, comme ces objets se sont formés le plus récemment, ils vont être sensibles non seulement à toutes les composantes de la matière, mais aussi à cette énergie sombre ou énergie noire. Donc, ça permet de tester, dans le cas le plus extrême, la physique de formation hiérarchique des structures, aussi bien pour la matière normale que pour la matière noire, et puis aussi de pouvoir s'intéresser à quelle est cette énergie sombre. Qu'est-ce que c'est ? Parce que cette énergie sombre, en fait, c'est comme si vous aviez quelque chose dans l'univers qui aurait une pression négative, donc en fait, qui ferait que l'expansion continue, comme si vous souffliez dans un ballon, en fait. Donc pourquoi ce sont des sondes cosmologiques? C'est un concept assez simple. Si on compte en fonction de leur masse, donc comme votre poids à vous, ou votre taille, le nombre d'objets ayant au-dessus d'une certaine masse dans un certain volume de l'univers, ça va en gros, ça veut dire qu'il y a moins de gens grands que de gens petits. C'est à peu près la même chose. La coupe, ça s'effondre assez rapidement et ces objets, donc étant extrêmes, ils sont rares et ils sont très sensibles à l'endroit où se trouve cette coupure, donc cette descente, et l'amplitude de la descente est très sensible au contenu de l'univers, en particulier à l'énergie noire. Donc là, la différence entre les points avec des barres d'erreur, donc ça, c'est les observations, et les lignes, c'est des prédictions théoriques pour un modèle d'univers qui contient, dans le cas de gauche, 25% de matière, 75% d'énergie noire, et puis le troisième paramètre, vous pouvez l'ignorer. Et dans le cas, ça, c'est ce qu'on pense qu'est maintenant l'univers, puisque effectivement, ça correspond bien aux données. Et ce qu'on pensait qui était probablement l'univers jusqu'en 1998, c'est plutôt ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie noire, mais il n'y a toujours que 25% de matière. Et donc on voit bien que ça ne correspond pas aux données, principalement aux données quand l'univers était plus jeune que son âge actuellement. C'est ce que ce paramètre Z ici, le redshift pour ceux qui sont familiers avec ça, ou le décalage vers le rouge en bon français, ça veut dire que l'univers était plus... Puisque voir loin, c'est voir tôt. Donc plus vous voyez à haut décalage vers le rouge, plus l'univers était jeune à cette époque-là, puisque la lumière... rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière, donc elle met un certain temps pour nous parvenir. Donc on voit, par exemple, on voit le soleil tel qu'il était il y a 7 minutes, et pas à l'instant exact où on le regarde. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Et donc, bah, c'est un ingrédient fondamental pour essayer de mesurer quel est peuvent bien être les paramètres cosmologiques de notre univers en utilisant les amas de galaxies. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'astrophysique, la cosmologie en particulier, et le reste des sciences expérimentales, c'est que nous, on habite dans notre laboratoire. Et on en a, donc on ne peut pas faire comme vous feriez par exemple avec des souris ou décider de leur injecter ceci, de les mettre dans une cage à telle température. Non, ça vous ne pouvez pas faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder le vrai univers, faire des modèles théoriques, soit simplement en faisant des calculs sur une feuille, avec une feuille de papier et un crayon, soit mettre dans un énorme ordinateur, comme ce que je vous ai montré dans la vidéo, pour former un univers avec des paramètres cosmologiques que vous avez décidés, la physique que vous pensez être la bonne, et voir ce que ça donne, et comparer ça avec les observations. Et si ça marche, parfait. Si ça marche un peu, mais pas encore très bien, vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être quelques trucs que vous ne comprenez pas. Et puis, si c'est complètement hors des clous, il faut que vous revoyiez votre modèle. En très simplifié, c'est ça. Et donc, ce qu'on peut mesurer avec ça, c'est les paramètres de l'univers. Donc, l'axe vertical, c'est à quelle vitesse panneau de gauche, c'est à quelle vitesse se forment les structures. Donc, l'axe horizontal, c'est combien il y a de matière dans l'univers. Donc à partir de cette fonction de masse, vous prédisez, donc vous prenez vos paramètres cosmologiques, vous prédisez une fonction de masse, après ça vous prédisez vos comptages d'amas, et vous comparez ça avec ce que vous observez. Et vous faites ça pour plein de valeurs des paramètres, donc ça va vous donner des contours qui correspondent à peu près à vos données. Donc c'est ce qu'on observe ici en violet. Donc ça vous donne des régions de valeurs de paramètres dont les données vous disent que ça doit être à peu près les bonnes. Mais En fait, ce n'est pas forcément ces paramètres auxquels vos sondes, donc là ici la quantité d'amas, sont les plus sensibles. Et donc, il va peut-être falloir utiliser d'autres indicateurs. Ici, ça vient de WMAP, donc c'est le fond diffus cosmologique, mais ça pourrait être les supernovas, ça pourrait être plein d'autres choses, pour pouvoir réduire votre intervalle. Et le but du jeu, c'est qu'on réduise de plus en plus, nos erreurs, jusqu'à temps qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Et puis, en regardant comment ça évolue avec l'âge de l'univers, etc., comprendre quelle peut être la nature de ces composantes. Et donc, sur le panneau de droite, c'est la même chose, mais avec les paramètres qui régissent la nature de l'énergie noire. Et ça, c'est ce qu'on avait en 2009 pour moins d'une centaine d'amas de galaxies. Depuis, on en est arrivé à quelques milliers. La zone a déjà bien réduit de taille et Euclide, ça va être au moins 50 000. Donc, dans quelques mois, on va avoir un changement de grandeur qui est le plus grand qu'on ait jamais vécu. Donc c'est pour ça qu'on était tous très excités le 1er juillet et qu'on croisait très fort les doigts pour que SpaceX ne nous fasse pas une petite bêtise. Un feu d'artifice du 1er juillet. Et l'autre aspect, avant d'en venir, qu'est-ce qu'on va faire avec Euclide et pourquoi je me lève tous les matins pour préparer des choses pour que Euclide, les données puissent être analysées et puis plein d'autres choses dans le consortium Euclide. Pourquoi je m'implique autant ils contiennent ces objets une très très grande fraction de toutes non seulement de la matière normale, donc les baryons, mais aussi des galaxies dans l'univers qui est proche de nous. Donc c'est des objets qui vont nous apprendre, qui sont vraiment représentatifs de ce qui se passe dans la totalité de l'univers, au moins. Et à nouveau, donc on a vu qu'on pouvait mesurer toutes les phases de la matière, soit de façon directe, soit de façon indirecte pour la matière noire par son effet gravitationnel sur la forme des galaxies, etc. Et donc, à nouveau, ces objets, c'est les seuls qui émettent dans une quantité de bandes observables qui correspondent à différents processus physiques et qui correspondent à différentes composantes de la matière. Donc ici, je vous montre une carte qui vient du satellite Planck et qui vous montre l'émission du gaz chaud de ces amas de galaxies en micro-ondes. Donc avec ça, vous pouvez mesurer la distribution du gaz chaud qui est emprisonné dans l'énorme potentiel. Comme c'est des objets très massifs, ils ont un potentiel gravitationnel très profond. Donc ils attirent le gaz et le chauffent. Donc le gaz, il se met à émettre non seulement en rayons X, c'est les contours en blanc, mais aussi en micro-ondes, en changeant l'énergie des photons, donc des particules de lumière du fond diffus cosmologique qui voyage entre le plan d'émission du fond diffus cosmologique et nous pour qu'on puisse les observer. Donc leur énergie est légèrement, ça leur donne un léger boost en énergie. Donc ça change un peu la forme de la distribution d'énergie de ces photons. Ça la décale un peu dans ces régions-là du ciel. Elle est décalée de façon positive et dans d'autres régions, elle peut être décalée de façon négative. Et avec ça, on peut mesurer quelle est la quantité de gaz dans ces objets. Et donc, tout ça, ça nous dit que c'est très sensible à la façon dont les galaxies se sont formées. Puisque on voit le gaz, on voit les galaxies. Donc tout ce qu'on va avoir fait sur ces composantes entre guillemets normales de la matière va laisser une empreinte dans ses observations. Et donc, en essayant de prédire les résultats de ces observations à partir de modèles théoriques, on peut en déduire quelle est la physique qui est à l'œuvre et quelle est la physique la plus importante, à quel moment elle se met en route, etc. etc. Là, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que Euclide qui est la nouvelle chose sur le nouveau jouet des astrophysiciens, surtout ceux qui sont intéressés par les amas. Il y a un nouveau satellite en rayons X qui s'appelle CRISM, qui a été lancé il y a quelques semaines et dont nous avons ici la première observation d'un amas. J'ai récupéré ça sur le site de la NASA hier. Moi non plus avant hier. Je savais qu'elle existait. ils l'ont lancée il y a 6 semaines, je crois. C'est un des amas d'Abel. Je suis désolée, j'ai oublié le numéro. Avec ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le fait que Euclide, ça va complètement nous changer d'ordre de grandeur, non seulement en termes de nombre d'objets, mais aussi en termes de la précision des mesures qu'on va être capable de faire sur ces objets. Il y a une autre sonde qu'on peut faire avec les amas de galaxies que je n'ai pas évoquée encore maintenant. Si vous regardez la quantité de matière qu'il y a en fonction de l'écart au centre, vous vous rendez compte que peu importe la masse de l'objet, donc les amas, les galaxies, les groupes, les galaxies, les petites galaxies, les très petites galaxies, etc., si vous remettez à une bonne échelle, en fait, ça va tomber tout sur une seule courbe. Donc il y a une universalité dans la forme. C'est seulement la taille de l'objet qui fait la hauteur si vous ne remettez pas à la bonne échelle. Et donc la forme de ces profils, on a découvert... ça a été découvert en 1996, cette universalité de la forme des profils, de la matière noire, mais principalement. Et en même temps, ils ont découvert que le paramètre qui régit la forme de ce profil universel, il dépend de la cosmologie. Et donc, on peut donc utiliser ça pour faire de la au minimum pour tester le modèle cosmologique, voire carrément mesurer les paramètres cosmologiques en utilisant ces propriétés. Alors, on n'arrive pas toujours à mesurer un profil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer une forme de profil de façon simple ? Eh bien, on peut simplement prendre la masse à des rayons qui a à l'intérieur de sphère d'un rayon donné pour un objet. Et on fait des ratios. Et ça vous donne l'information sur est-ce que toute la masse est au centre ? Est-ce que la masse elle est à peu près également répartie ou tout est à l'extérieur, etc. Et donc, on peut quantifier la forme de ces profils avec ce simple ratio de masse, au lieu d'aller de prédire une forme théorique pour le profil et d'aller mesurer en ajustant la forme, les paramètres de ce profil. Ça dépend de la cosmologie, comme je viens de vous le dire, et ça dépend aussi énormément de la physique de formation des galaxies. Donc à partir de cet outil relativement simple, on peut prédire les valeurs pour ces ratios, pour une cosmologie et des effets de physique de formation des galaxies données, comparer ça avec les données et faire la même chose, donc, que ce qu'on a vu tout à l'heure, on obtient à nouveau des contours qui correspondent aux paramètres qui vous sont. Donc là, on a utilisé, l'équipe qui a fait ça a utilisé en 2021 une centaine d'amas avec des masses qui n'étaient pas très précises. Et donc, avec Euclide, on a l'espoir de pouvoir faire beaucoup mieux. Et c'était déjà à l'époque de performance assez égale à d'autres sondes cosmologiques. Et ça n'a pas la même... On peut utiliser ça avec les autres sondes pour réduire notre taille de contour parce que la façon dont ça dépend la forme du contour dépend des paramètres n'est pas la même suivant les sondes. Donc c'est ce qu'on voit là entre différence entre les contours noirs et les contours en couleur. Donc déjà mentionné Euclide. Bon, j'ai pas changé la fusée. Je suis désolée. Donc Euclide est parti le 1er juillet depuis Cap Canaveral sur une Falcon 9 de SpaceX. On est en train de finir les 6 mois de recette en vol. Et d'ici quelques semaines, si l'Agence spatiale européenne est satisfaite des performances mesurées lors de la recette de vérification de performance en vol, la mission, donc le relevé en tant que tel, va pouvoir commencer. Il devrait durer au moins 6 ans. Pour le moment, on a 6 ans de garantie. Et donc, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a été proposé en 2007, accepté en 2011, donc lancé en 2023, durera au moins jusqu'à 2029 ou 2030, et je pense que j'utiliserai les données jusqu'à la fin de ma carrière. Comme je vous l'ai déjà dit, la France est très lourdement impliquée, puisqu'on en a le leadership scientifique. Il se trouve que le responsable scientifique a son bureau est basé dans ce laboratoire. Et on est au dernier comptage 2700 dans le consortium scientifique, basé dans 18 pays, de toute nationalité, pas seulement celle des 18 pays, tout âge, toute origine, etc. Et donc c'est une énorme aventure humaine. En plus d'être une aventure scientifique hors norme, c'est la plus grosse collaboration que n'ait jamais eue l'astrophysique, de au moins un facteur 10. Donc c'est une plongée dans l'inconnu à tous les titres. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est le satellite. Donc c'était la fusée sur le pas de tir la veille du tir. Ils l'ont mise à la verticale que quelques heures avant le tir. Et puis, ça, c'est la vue de l'intérieur du télescope Euclide. Et le satellite, ça ressemble à ça. Et oui, les premières... Pourquoi je me lève le matin ? Bon, il n'y a pas que ça qui m'intéresse dans Euclide, mais une des premières images scientifiques d'Euclide qui a été prise pendant la recette en vol. Donc, c'est l'amas de Persée. L'image, elle fait 24 000 par 24 000 pixels. En gros, si vous imprimez à une résolution standard pour une imprimante, vous pouvez entourer tout le bâtiment avec cette image. Et c'est qu'une des milliers, voire centaines de milliers d'images qu'on va avoir. Ça représente que à peine 2 heures d'observation. Et donc, il y a 6 ans de ça à venir. Et avec ça, on voit qu'il y a ces effets de l'anti-âge gravitationnel. On peut aussi voir que les galaxies, elles ne sont pas réparties de façon égale dans l'univers. Donc ça, c'est deux des autres sondes qui vont être utilisées par Euclide. Et puis Euclide aussi va nous apprendre plein de choses sur la physique de formation de galaxies et aussi plein de choses sur les supernovées, sur à peu près toute l'astrophysique moderne. C'est donc on... On peut dire qu'on a tous hâte voilà, de jouer avec les premières données et puis d'essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans notre univers. Et je vous remercie de votre attention.
Les questions qui peuvent vous passer par la tête, y compris sur YouTube aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous laisse réfléchir dans la salle parce que je ne vois pas de main qui se lève tout de suite. Je peux vous dire déjà qu'il y a une question sur YouTube que je peux transmettre. Peut-il y avoir expansion de l'univers s'il y a gravité ? C'est contradictoire.
Oui. C'est toujours la même chose, c'est le plus fort des deux qui gagne. C'est celui qui a le plus d'énergie ou le plus... voilà. Donc, la gravité... S'il n'y avait pas eu d'énergie noire, la gravité aurait probablement fini par gagner. Mais comme il y a l'énergie noire, il y a une force qui vient contrer cet effet de contraction lié à la gravité, et donc l'univers peut continuer à s'étendre, mais non seulement continuer à s'étendre de plus en plus vite. Et ça, c'était vraiment, vraiment la surprise il y a déjà 25 ans.
Oui, voilà. C'était exactement, oui, c'était en 98. Ouais, bien, vous avez eu le temps de réfléchir à des questions. Donc, je vous apporte le micro.
Merci beaucoup. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a une grande proportion, et quelle est la proportion de galaxies en dehors des amas ? Et est-ce que ça vaut le coup d'aller les observer ?
Bien sûr, il y en a. Plus vous montez en décalage vers le rouge, plus il va y en avoir, puisque au cours du temps, les amas se forment. Donc, si vous remontez suffisamment loin dans l'univers, il y a un moment où il n'y aurait que des galaxies qui vivraient quasiment seules. Éventuellement, comme... Après, par exemple, on dit qu'il y a une notion un peu vague de ce qu'est qu'une galaxie seule. Parce que, par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, on considère que ce n'est pas un groupe de galaxies, mais elle a quand même des satellites. Donc... tout est une question de rapport de taille, etc. Mais bien sûr qu'il existe des galaxies que l'on considère comme étant plus ou moins isolées. Après, quant à vous dire quel pourcentage c'est, j'aurais bien du mal...
Ça dépend à quelle distance,
Ça dépend à quel redshift, ça dépend jusqu'à quelle luminosité, de quelle luminosité on parle, ça dépend de tellement de choses que vous donner un chiffre, j'en serais bien incapable. Mais bien sûr que ça existe, et bien sûr que ces galaxies sont intéressantes.
D'autres questions ? Oui ?
Oui, merci. C'est une question un peu candide. Ça fait rien.
C'est les meilleurs.
Ouais. Non, tout à l'heure, ça m'a interpellé. J'ai vu groupe et amas de galaxies.
Alors oui.
C'est la différence.
La différence, c'est la taille.
Ah, d'accord.
C'est généralement, on définit ça en termes de la masse de l'objet. Donc, une galaxie, c'est quelque chose qui fait à peu près 10 puissance 12. Donc, 10, un 1 suivi de 12 zéros, masse fois la masse du Soleil. Un groupe, c'est la même chose, mais c'est 10 fois plus gros. Donc, ça va commencer à avoir des dizaines, voire des centaines de galaxies. Et puis, l'amas, c'est à partir de encore un ordre de grandeur au-dessus.
Oui, ma question complémentaire, c'est plutôt une remarque. Moi, je suis assez passionné par l'amas de la constellation de la Vierge. On parle souvent de l'amas de la Vierge. Est-ce qu'il fait partie de programmes d'investigation d'Euclide ? Est-ce qu'il y a un programme qui a été établi, justement, d'observation ?
Pas à ma connaissance. Je pense qu'il est trop proche. Et je ne sais pas s'il est dans les champs qu'on va observer.
Parce que il est dans toutes les bonnes revues de constellations, on parle de l'amas de la Vierge.
Ah oui, non, bien sûr.
Oui. Il y en a d'autres.
Voilà. Honnêtement, je ne connais pas exactement sa position sur le ciel, donc je ne peux pas vous dire s'il est dans les champs qu'on va observer. Mais on va observer quasiment tout le ciel qui se trouve en dehors de la galaxie, donc il y a de fortes chances qu'il y soit.
Oui, après, ce n'est pas forcément une des cibles les plus intéressantes.
Au niveau Legacy, oui.
L'idée, c'est d'aller observer plutôt loin.
Bah oui, on s'intéresse aux amas lointains.
Et l'amas de la Vierge, il est tout près pour nous. Mais voilà, mais il sera probablement observé sans que ça soit pour l'observer lui-même, mais parce qu'il sera dans une zone du ciel qui sera observée.
Après, ça dépend, parce qu'il va y avoir les programmes pour les fileurs aussi.
Oui, on n'a pas toute la liste non plus de ce qui va être observé pendant les 6 ans. On a à peu près on sait à peu près quelle couverture dans le ciel, mais...
Oui, mais... et puis surtout, il y a eu quelques surprises pendant la recette en vol qui font qu'on est obligé de recalculer le relevé. Donc, à l'heure actuelle, j'aurais bien du mal à vous dire exactement comment maintenant le relevé va être positionné dans le ciel. Ça n'a pas changé énormément, mais vous dire si ce sera observé et quand, aucune idée.
Tu peux peut-être raconter quels sont les problèmes qui ont été rencontrés?
Je peux après le faire, mais tant que monsieur n'oublie pas sa question.
Il ne va pas oublier sa question.
Bonjour, moi je m'intéresse beaucoup à la science pour les gens comme nous, quoi. Et en fait, après les années 20, Einstein il avait imaginé ce qu'on appelait la lumière fatiguée. Après, il y a eu la lumière vieillissante, il y a eu des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est éliminé, c'est-à-dire on considère que les rayonnements qui nous proviennent, même de 10 milliards d'années ou d'un million d'années ou de... Une milliseconde, c'est pareil.
Non, parce qu'ils changent d'énergie. On ne les observe pas dans les mêmes longueurs d'onde. Le rayon du fond diffus cosmologique, on l'observe dans les micro-ondes. Mais quand il a été émis, c'était des rayons gamma, voire au-dessus des rayons gamma. Donc, bien sûr, c'est ça qui est, c'est un des effets aussi du décalage vers le rouge. C'est que donc, l'énergie de la lumière baisse... En fonction de la distance qu'elle a dû traverser pour nous rejoindre.
Oui, mais est-ce que toutes ces variations, parce qu'on peut pas savoir, on est juste sur Terre. En fait, tous les essais qu'on fait, comme vous dites, c'est en laboratoire, c'est un delta T, mais un rayonnement qui a fait 12 milliards d'années avant de nous venir. Est-ce qu'on peut être sûr de qu'il n'y ait pas un biais global d'observation? C'est ça ma question, en fait.
C'est possible.
Jamais être sûr, hein, la vérité avec un grand V, on ne la détient pas forcément. Hein.
C'est bien le problème de vivre dans son laboratoire. C'est que la table de vérité pour l'univers, on ne l'a pas. Donc... c'est pour ça qu'on teste nos théories et qu'on teste nos techniques observationnelles sur des simulations pour essayer d'éliminer tous les biais auxquels on peut penser. Donc bien sûr, c'est quelque chose auquel on a pensé. Et par exemple, on est déjà obligé de corriger de l'effet du déplacement du Soleil dans notre galaxie, de la galaxie par rapport au groupe local et tout ce genre de choses pour les mesures dont vous parliez. Donc, c'est quelque chose dont on est bien conscient.
Mais il y a sûrement des biais dont mais on n'est pas conscient, biais qu'on peut... des erreurs qu'on peut faire. Hein, c'est toujours possible. Hein. C'est pour ça, c'est ce que Amandine expliquait au tout début, c'est qu'on fait des théories, des calculs, des simulations, et puis on compare aux données. Et puis si on s'aperçoit que ça ne colle pas, eh ben c'est que les théories ou les calculs sont faux.
Ou
donc après,
y a
on
un
recommence,
biais,
et c'est comme ça qu'on a, on essaye
d'avancer. Ou qu'il y a un biais auquel on n'a pas pensé.
Aussi, voilà. C'est qu'il y a une erreur quelque part. Merci.
Bonsoir. Je n'ai pas compris les rôles respectifs de la gravité et de la matière sombre ou l'énergie sombre dans la formation des amas.
Alors, la matière sombre, en gros, elle ne fonctionne que par la gravité. Donc, c'est de la matière. C'est juste que ce n'est pas de la matière comme celle dont vous et moi sommes faits. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais sinon, elle n'est sensible qu'à la gravité, et c'est la gravité qui fait la formation des amas. Après, la masse, la taille d'un amas, etc., à un temps donné, ça va dépendre du contenu énergétique, du contenu de l'univers et du rapport qui gagne, entre guillemets, entre la gravitation et l'énergie sombre. Donc l'expansion de l'univers, qui, elle, va venir contrer la gravité et faire que les galaxies ne vont pas vouloir plonger dans l'amas le plus proche, pour continuer à le faire grossir.
On va donner la parole un petit peu à ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc il y a une question ici, comment fait-on pour savoir la distance d'une galaxie sans connaître sa taille ni faire de triangulation ?
Eh bien, c'est là qu'on utilise justement le changement d'énergie de la lumière dont on parlait, ce fameux décalage vers le rouge. On sait, par exemple, que les galaxies, elles émettent dans certaines gammes de longueur d'onde. On connaît la forme de la répartition de la lumière entre ces différentes longueurs d'onde. Donc, en regardant la différence entre cette répartition pour une distance nulle et cette répartition pour... On continue à changer la distance jusqu'à temps qu'on ait deux distributions d'énergie qui se recouvrent, et c'est là que ça vous donne à quelle distance ou à quel décalage vers le rouge se trouve votre galaxie. Et derrière intervient la cosmologie pour vous dire quelle est la relation entre votre décalage vers le rouge et votre distance.
Alors, encore une question. Pensez-vous que Euclide puisse aider à résoudre la crise de la valeur de la constante de Hubble ?
Déjà, ça va peut-être nous confirmer si c'est vraiment un problème ou si c'est juste une fluctuation statistique. On verra si crise encore il y a à ce moment-là. C'est vrai qu'elle est en train de se renforcer. Au point que certains commencent à vraiment maintenant penser que ce n'est pas juste une fluctuation statistique, mais probablement quelque chose, il y a quelque chose dessous. Soit un effet observationnel auquel on n'a pas pensé, mais là, depuis les premiers signes de cette tension, il y a 5 ou 10 ans, quasiment tout a été essayé. Et puis on est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas seulement sur le paramètre qui s'appelle la constante de Hubble, c'est le petit h que je vous ai dit d'ignorer tout à l'heure. Elle est en fait multidimensionnelle dans plusieurs paramètres cosmologiques. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait au début. Par contre, il y a une tension qui, elle, concernait entre autres les amas de galaxies, qui était la tension sur l'amplitude des fluctuations, qui, elle, a priori quasiment disparu. Donc,
il faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles de temps en temps.
Voilà. Après, ça dépend. Ça dépend de qui à qui vous demandez, oui. Mais pour moi, elle a, pour ainsi dire, disparu.
Alors, est-ce qu'on peut utiliser les amas pour contraindre les modèles d'inflation ou pas ?
Probablement pas. Ou alors, il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment très exotique. Mais je pense qu'on l'aurait, dans ce cas-là, on le saurait déjà. Après, c'est pas ma spécialité.
Donc, moi non plus, je ne saurais pas répondre.
Après, voilà. Il peut y avoir les comptages extrêmes. Les pink elephants et ce genre de choses qui peut donner des choses sur l'inflation, mais pink elephants, c'est des amas qui ne devraient pas exister, donc ils sont trop gros pour, ils n'auraient pas normalement dû se former, c'est des anomalies, soit c'est une anomalie statistique, soit c'est qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas, qui pourrait être, par exemple, une non-gaussianité de l'univers liée à l'inflation, par exemple.
Donc on y revient. Ensuite, y a-t-il une relation possible entre le champ de Higgs et la matière noire, et la matière noire existe-t-elle ?
Alors, je sais que ça a été exploré. À ma connaissance, la réponse est non. Par contre, on sait que la matière noire existe. C'est juste que, pour le moment, on a aucune, ça correspond à aucune particule du modèle standard de la physique des particules. Effectivement, au moment où il y avait eu la, où on cherchait encore le Higgs et qu'on ne connaissait pas encore très bien l'énergie, il avait été évoqué que ça pouvait être le Higgs. C'est maintenant totalement exclu. Et a priori, ça, même si on considère qu'il y a peut-être la supersymétrie ou des extensions au modèle standard de la physique des particules, de toute façon, les accélérateurs sur Terre ne sont pas assez puissants pour produire quelque chose qui pourrait être la matière noire, a priori. Donc la seule solution, a priori, pour savoir ce que c'est que la matière noire, c'est soit qu'on arrive à détecter cette particule directement sur Terre. Donc il y a des détecteurs qui sont construits dans des caves très profondes parce qu'il faut supprimer tous les effets et réussir à détecter une particule. Jusqu'à présent, on n'a rien eu. Mais bon.
Alors, il y a quelqu'un justement qui aimerait que tu réexpliques un peu la notion de matière noire non collisionnelle. Alors, peut-être un peu vite.
Oui, je suis allée un peu vite peut-être tout à l'heure. Donc, le fait que ce soit non collisionnel, c'est comme si vous et moi on se croisait sans. Ça n'a aucun impact sur l'un d'entre nous. Par contre, si on se rentre dedans de façon frontale.
On va le sentir.
Mais par contre, les particules de la matière noire, elles ne vont pas le sentir. Elles vont se passer l'une à travers l'autre.
Voilà, ça, je pense que ça répond à la question. Alors, il y a encore des questions. Quelles sont les théories sur l'évolution possible des amas ?
On a déjà observé des super amas. Donc le stade d'après, après les galaxies, les groupes et les amas, ce sont les super amas. Et par exemple, notre environnement local est dans un super amas. Donc ça existe. Je sais qu'il y a certains de mes collègues dans Euclide qui vont en chercher. Donc l'état d'après, c'est toujours plus gros.
Oui, toujours plus gros.
La gravité, c'est le truc le plus... En gros, c'est le capitalisme dans la pire des formes. C'est les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. C'est exactement ça, la gravité.
Alors, dernière question sur le web, après je vais passer quand même quelques questions dans la salle et puis on va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux amas lointains alors que l'énergie noire domine surtout à notre époque ?
Alors, ça dépend de ce qu'on veut dire par à notre lointain et par à notre époque.
Est-ce que c'est une question de décalage spectral ?
Oui. Pour nous, les amas lointains, c'est au-dessus d'un décalage vers le rouge de 1 qui fait à peu près 6 milliards d'années par rapport à maintenant. Mais en fait, on dit que l'énergie noire, c'est un phénomène récent. C'est récent par rapport à l'âge de l'univers. Mais ça a commencé peut-être vers redshift 4, 5, 10. Même les amas lointains sont affectés par l'énergie noire. Par contre, elle domine totalement depuis une époque relativement récente, effectivement. Mais elle a commencé à avoir un impact beaucoup plus tôt que ça.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions encore dans la salle ? Oui ?
C'était pour revenir sur le fait que la matière noire est non collisionnelle. Comment on a réussi à avoir une certitude que la matière noire n'obéit pas à l'électromagnétisme, alors que la seule manière qu'on a pour la détecter, c'est de manière indirecte.
C'est justement parce qu'on la voit pas. On voit le rayonnement électromagnétique, c'est tout ce qu'on peut voir. Donc elle peut pas émettre de rayonnement électromagnétique.
Merci.
Une dernière question ?
Oui, toujours à propos de la matière non collisionnelle. Au début, vous nous avez montré une image avec il y avait des zones rouges et des zones bleues.
Ah oui, celle-ci.
Oui. Donc, vous nous avez dit que la partie qu'on voit en bleu, enfin violet, ça représenterait la matière noire.
C'est les endroits où se trouve la matière noire qu'on détecte de façon indirecte par son impact sur la forme des galaxies à cet endroit-là, en fait.
Et donc, si j'ai bien compris, si ça, c'est une collision entre deux amas...
Oui, c'est deux amas qui se sont traversés.
La matière noire des deux parties est allée au-delà de la partie centrale. Donc la matière normale a été freinée.
Voilà.
Mais la matière noire...
Et c'est juste c'est comme les galaxies. Vous voyez aussi que les galaxies sont au même endroit que la matière noire. Et les galaxies, c'est un peu la même propriété que la matière noire. Pour ainsi dire, ça se traverse, sauf si les galaxies rentrent en collision de manière frontale, mais si elles se passent à côté, elles s'ignorent, pour ainsi dire.
Ok. Donc, dans ce cas-là, la région centrale serait en quelque sorte dépourvue.
C'est jusqu'à temps qu'on ait la collision finale. Où ça ne forme qu'un seul amas de galaxies. Pour le moment, c'est probablement leur premier passage. Donc, ils se sont traversés l'un l'autre. Et jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui perde suffisamment d'énergie pour ne plus pouvoir s'échapper de l'attraction de l'autre. Donc là, il avait encore suffisamment... Le plus petit des deux, ou même ils peuvent avoir de la même taille, il avait encore suffisamment de vitesse pour pouvoir s'échapper de l'attraction gravitationnelle de son confrère. C'est comme si vous aviez deux voitures qui rentrent en collision, mais elles se passent à travers, et tant que il y en a une qui, admettons qu'il y en a une qui attire l'autre, si l'autre a suffisamment de vitesse pour pouvoir résister à cette attraction, elle va continuer à passer à travers.
Ouais. Ce que je voulais surtout comprendre, c'est est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des galaxies ou des amas de galaxies qui restent, qui sont pauvres en matière noire, puisque la matière noire n'a pas été freinée lors de la collision.
Non, parce que en fait, elle est restée attachée à l'amas de galaxies. C'est juste le gaz qui lui est en retard. Parce que le gaz, il est collisionnel. Et donc, il met plus de temps à se traverser. Deux poches de gaz mettent plus de temps à se traverser l'une l'autre que deux sphères de galaxies ou deux sphères de matière noire.
Alors, il y avait une dernière question par ici, au premier rang, je crois. Voilà, j'arrive.
Oui, ma question, c'est est-ce que vous pensez que la matière noire pourrait traverser les trous noirs des galaxies, pour reprendre l'image que vous avez donnée là.
A priori, non, parce que tout ce qui rentre dans un trou noir n'en ressort pas. Donc, après, la matière noire peut très bien tomber dans un trou noir, mais elle y restera.
D'accord, donc elle peut... Elle est donc soumise à l'attraction de la
gravitationnelle. Du trou noir. Oui. C'est la seule force qu'elle ressent.
Oui, ce sont des particules massives, donc la gravité joue, donc les trous noirs les attirent. Donc elles tomberaient dedans. Mais on ne sait pas ce que c'est, ces particules. Et c'est bien agaçant. On va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait une dernière question. Il y a encore des questions, là ? Il y a encore une question brûlante.
Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, vous avancez plus vite dans vos recherches ?
On commence à s'en servir. Après, aller plus vite, pour le moment, je dirais pas encore ça, parce qu'il faut adapter les modèles d'intelligence artificielle à ce qu'on veut faire avec. Et ça, c'est tout un champ de recherche. Donc, on n'a pas encore d'outils comme qui serait l'équivalent de ChatGPT à qui on pourrait donner toutes les observations d'Euclide et qui nous dirait « Ah ben, j'ai trouvé la matière noire, c'est ça, l'énergie noire, c'est ça, les paramètres de l'univers, c'est ça. Bon, ben, on peut aller se coucher.
» Mais le 2 avril, il va être question d'intelligence artificielle. Donc, dans la conférence du 2 avril,
oui,
vous en
Florent,
saurez peut-être un peu plus long.
Vous parce en dira
Florent,
beaucoup plus que
voilà,
moi.
Voilà, Florent Leclerc, vous dira des choses sur l'intelligence artificielle parce qu'il en sait beaucoup plus qu'Amandine et moi. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ou de nous avoir suivis sur YouTube. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est le 6 février. Bonne soirée à tous.